Prestart. Génération Prestart. Try again. Try again.
Bonsoir à tous les fans de jeux vidéo. On se retrouve pour un nouveau numéro de Try Again. Et puis malheureusement, pour le dernier de la saison. Mais pas des moindres, puisque ce soir, nous décortiquons The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. Et c'est Lionel qui nous propose ce thème pour la dernière émission. Bonsoir Lionel.
Bonsoir à tous. Effectivement, c'est un jeu qui tient à cœur de beaucoup de joueurs et qui plaît à beaucoup de monde. Donc,
un hit du jeu vidéo.
Tout à fait.
Et puis pour l'épauler, comme d'habitude, il y a Ellie.
Coucou les loulous.
Qu'est-ce que tu vas nous faire ce soir? Qu'est-ce que tu te charges de quoi?
Ah, moi je vais faire la première partie, c'est-à-dire l'insert coin. Et je vais vous parler un petit peu de différents Zelda, de ce qu'ils ont apporté au gameplay avant l'épisode en 3D justement.
Très intéressant. Et pour finir, le meilleur pour la fin?
Ah bon, le meilleur?
Je sais pas, hein. J'essaie de se flatter un petit peu.
Prendre,
je vous flatte toujours. Hein, je dis toujours le meilleur pour la fin, vous avez remarqué.
C'est vrai. Moi, je suis toujours en deuxième. Alors.
Donc, Martin, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir?
Je mentirais si je dirais que j'avais rien préparé, mais je dirais simplement que j'ai parlé de ma vie par rapport à ce jeu.
Ah ouais? Ah, ouais, du. De l'anecdote personnelle pendant toute une partie d'émission.
Non,
quoi.
Mais il y en aura beaucoup.
Genre, ta vie tourne autour de ce jeu, en fait.
Presque. Ou c'est l'inverse.
Voilà. Et puis, comme c'est un grand jeu, qui dit grand jeu dit grande musique, belle musique. Et nous commençons tout de suite par écouter Kokiri Forest, qui a été composé par Kenji Kondo. On a déjà entendu parler de ce nom. Et Ryushi Katsumata.
M57, Hits and Move.
Hits and Move.
M57 Radio.
Nous voilà déjà de retour. Alors juste petite précision, donc deux noms de compositeurs, puisque Koji Kondo, on en a déjà parlé, c'est le compositeur. Et Ryushi Katsumata, c'est celui qui a réorchestré cette musique, c'est ça?
Bah en fait, les deux ont participé à la réorchestration des musiques, mais le compositeur principal pour les musiques du jeu, c'est Kondo Koji.
Voilà, dont on avait déjà parlé.
Oui.
Ellie, l'insert coins.
Voilà, donc l'évolution du gameplay à travers les âges des Zelda. Alors, le premier Zelda, c'était en 86, The Legend of Zelda, qui était sorti sur Famicom au Japon, et en 87 sur NES, donc la même version. Ça pose vraiment les bases des Zelda et les bases du genre en général. Donc c'était un jeu en deux dimensions, vu de dessus. On a un peu l'impression que c'est incliné, mais en fait, c'est le personnage qui est un petit peu de côté. Et à la base, il y avait quoi? Il y avait frapper, et l'autre bouton, c'était pour les objets. Et... une chose très importante, la base du gameplay, c'était qu'il y a des mondes extérieurs et il y a les palais. Et ça, on les retrouvera dans tout le reste de la série. Alors c'est un jeu, et c'est assez rare, qu'il y avait des sauvegardes sur NES. C'est pas mal. Autre chose, quand on avait fini le jeu, il y avait une seconde quête qui était plus ardue, plus difficile, avec les palais qui étaient un petit peu différents.
Mais c'était modifié, ils avaient ils étaient faits en forme de lettres et ça représentait, je crois, Zelda même ou un truc comme ça. Je sais plus, ça forme quelque chose après.
Ouais, c'est possible, moi je suis pas allé jusque là.
Je crois qu'il y avait un code pour arriver dans la seconde quête en mettant Zelda en nom de personnage.
Oui, oui,
mais après, il est pas allé former avec des formes, ça formait quelque chose de différent. Deuxième loot, c'était pas Zelda en fait, c'était autre chose.
Zelda qu'on retrouvera tout au long de la série quasiment. Donc une base du gameplay aussi, c'est les cœurs qu'on pouvait trouver. On tuait un boss, on avait un cœur, ou alors on pouvait les trouver, les cœurs cachés, et s'augmenter donc l'énergie du personnage. Alors au niveau des objets, il y a beaucoup d'objets qui en fait étaient déjà dans le 1. Bon, l'épée bien sûr, le boomerang, aussi les bombes, l'arc, le bracelet de force qu'on retrouvera dans tous les épisodes suivants, baguette magique, les clés, la boussole, la carte des palais, tout ça c'est des grands classiques, mais c'était déjà à partir de la première version de Zelda. Autre chose qu'on ne retrouvera pas dans tous les Zelda, c'est qu'il y a des faces vraiment de côté, de profil. On se souvient beaucoup de la version Game Boy, où on voyait dans les palais, on pouvait monter des échelles.
Souterrains, quand on était dans les souterrains des palais pour passer d'une zone à une autre. Et là, effectivement, c'était vu de côté. Et c'était déjà le cas dans la version sur NES, la toute première.
Même certains combats de boss, c'était comme ça, le boss du palais 4 et du palais 7 sur la version Game Boy, tu l'avais.
Le boss dans l'eau aussi.
Ouais, le poisson, ça, le palais 4, ouais. Et l'autre, c'était l'aigle,
le palais 7. L'aigle, ouais, tout à fait.
Ouais. Ensuite dans Zelda 2, alors qu'est-ce que cette version a apporté au gameplay? Alors tout d'abord le titre c'est The Adventure of Link, il est sorti en 87 au Japon, 88 chez nous sur Nintendo, sur NES. Donc ce jeu était donc en deux dimensions. Alors il y a deux phases différentes. Il y a la phase sur la carte où on se déplace sur une carte modèle réduit, un petit peu comme dans des RPG plus classiques. Et il y a les phases en 2D vues de côté où on se déplace et c'est vraiment tout le reste du jeu. Donc c'est une version qui était vraiment différente, je trouve, des autres Zelda, parce que c'était vraiment vu de côté. Donc change pas mal.
Disons que c'est un gameplay totalement différent. Pour beaucoup, c'est un épisode vraiment à part quand même, quoi. Il y a plus les mêmes bases de gameplay justement.
T'avais un compteur d'XP, je crois aussi.
Ouais, t'avais de l'XP. C'est un des seuls. Vraiment Zelda qu'on pourrait qualifier presque de RPG en fait, quoi, de jeu de rôle. Donc ça change vraiment du tout au tout entre le premier et le deuxième.
Ouais, et puis sur la carte t'avais aussi des ennemis que tu rencontrais, ça donnait lieu à une phase action, donc vu de côté où tu bastonnais et tu pouvais sauter sur les ennemis. Voilà, sauter, donner un coup d'épée vers le bas. Moi je trouve que c'est le Zelda le plus difficile de la saga.
Je crois qu'il y a alors je vais peut-être faire un gros spoiler, mais parce qu'on en a parlé un jour, il me semble que la fin en fait tu combats ton double.
Ouais, c'est ça. Le boss de fin, c'est ton
double. On en a déjà parlé.
Ouais, c'est
pas le seul Zelda où ça s'est passé.
Non, mais je crois que c'est la première fois qu'ils entrent dans la série et qu'ils disent genre c'est ton frère ou un truc comme ça.
Je pense qu'on en reviendra tout à l'heure dessus.
Tout à fait.
Alors, ensuite Zelda 3. Enfin, plutôt A Link to the Past, c'est le titre exact. 91 chez nous, 91 au Japon, 92 chez nous. En fait, c'est un peu comme Zelda 1, mais qui a été réamélioré pour la Super Nintendo.
Oui, disons que c'est complètement inédit. Hein. C'est une histoire et une aventure inédite quand même.
Oui, tout à fait.
Mais après, les mondes sont... le monde est relativement inédit, même si on retrouve les bases d'Hyrule, quoi.
Au niveau du gameplay, ça reprend vraiment beaucoup d'éléments. C'est aussi de la 2D vue de haut, légèrement inclinée.
Ils ont ajouté la fonction courir ou des trucs comme ça que t'avais pas avant,
oui. Alors courir c'est très important parce que ça permet de faire avec les bottes de Pégase, d'avancer très rapidement dans le jeu, de pousser les ennemis. Il y a quand même pas mal d'améliorations. Hein.
J'aimerais juste dire aux gens que s'ils sont intéressés par ce jeu, on a quand même fait une émission dessus en début de saison et qu'elle est toujours disponible sur notre magnifique forum. Voilà. Pour la réécouter.
C'est vrai,
tant qu'à faire.
C'est sûr. Alors à partir de cette version, on a des fragments de cœur qu'on peut trouver. C'est plus des cœurs entiers, c'est des fragments. Sauf quand on bat un boss, là c'est toujours un cœur entier. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté aussi? C'est le monde des ténèbres. Bon, c'est sympa. Il y a un miroir magique qui permet d'interagir dans deux mondes différents.
Un parallèle temporel.
Ouais, voilà.
C'est quand même sympa de pouvoir aller d'un à l'autre et d'interagir entre les deux grâce à ce miroir.
Exactement. D'ailleurs, dans la suite des Zelda, ils vont reprendre beaucoup ce principe d'interagir dans un monde pour un autre.
Pas toujours, hein.
Non, pas forcément.
Mais ça arrive plusieurs fois.
Non, mais pas obligatoirement. Mais c'est vrai que
des fois c'est l'espace, des fois c'est le temps, des fois c'est le. Non, mais c'est vrai.
Ouais,
des fois,
je comprends.
Ils ont varié quand même.
En ce moment, je suis en train de faire Zelda Oracle of Ages. Et effectivement, il traverse les âges et il peut faire des actions et revenir dans le présent ou dans le passé. Ça aura changé des choses.
Oui, bon, c'est le principe du gameplay de cette version, effectivement.
Cette version ainsi que Zelda Oracle of Seasons.
Pardon?
Oracle of Seasons.
Oracle of Seasons. C'est des jeux qui sont sortis sur Game Boy Color et qui ont été faits par Capcom, donc un petit peu différent.
Oui, il y a plusieurs jeux comme ça qui ont été faits par Capcom, effectivement.
On y rencontre pour le premier faire Tingle avec son ballon là.
Tingle.
Voilà, ensuite il y a eu Zelda Minish Cap.
J'ai adoré, j'ai kiffé.
Avec le monde des Minish et Exelo qui peut te transformer en tout petit pour que tu puisses côtoyer les Minish. Et ensuite il y a le First World qui est sorti sur GBA, sur Cube. Tu peux jouer en multijoueur, tu peux commander 4 personnages à la fois. Voilà.
Et nous tirons les versions CDI parce qu'elles sont mauvaises.
Voilà.
Elles existent ?
Oui, elles n'existent pas. D'après le grand conseil, elles n'existent pas.
Et Game & Watch, mais bon.
Eh bien, c'est très chargé cette saga quand même de Zelda. Je crois que Lionel va avoir beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter tout à l'heure.
Et je serai
pour notre Versus Mad, et tu seras pas le seul, mais je sais que ça te tient très à cœur cette saga. Donc on va écouter la musique et puis on revient pour le Versus Mode. C'est Carnival Style Medley.
M57 Radio.
Cette radio. À notre cher Koji Kondo, quel génie de la musique, quand même, ça fait beaucoup de bien de réentendre tout ça.
Alors juste, j'explique juste donc quand même pour préciser, la musique qu'on a fait avant, c'est donc un montage de deux musiques du jeu. Une, c'est la première partie, c'est la musique du moulin à vent, là où on apprend normalement le chant des tempêtes, je crois.
Oui.
Et la deuxième partie, c'est celle qui est dans, c'est la musique du mini-jeu, je crois, ou quelque chose comme ça, de la fête
place du marché.
Ouais, de la place du marché, voilà. Donc,
ne perds pas l'entraînement, tu vas nous expliquer tout de suite, tu vas nous en expliquer beaucoup plus sur ce jeu, puisque c'est à toi.
C'est à mon tour, ouais. Donc voilà, donc on parle aujourd'hui de The Legend of Zelda Ocarina of Time dans son titre entier, qui est sorti donc dans nos vertes contrées le 11 décembre 1998. Donc je fais tout de suite ma petite anecdote personnelle.
Allez.
J'étais tellement je l'ai eu une journée en avance chez moi. Je l'ai eu la veille, sauf que j'avais pas fini un devoir de français pour à rendre pour le lendemain, parce que je savais que le jeu sortait que le lendemain, donc je m'étais pas avancé. Et du coup, j'ai dû finir mon devoir de français avant de pouvoir commencer à jouer.
Donc ça t'a servi à rien de l'avoir en avance, quoi.
Et ça m'a pas servi de leçon par la suite pour m'avancer pour mes devoirs. Mais bon, voilà, c'était la petite anecdote du jour.
Moi, j'ai envoyé un copain me l'acheter pour Noël.
Ah,
c'est mes parents qui payaient le jeu, puis en fait ils ont passé des sous à un copain à moi qui l'a acheté le jour de la sortie, parce que moi je pouvais pas aller, j'avais cours.
Qui l'a eu ce jeu à l'époque à sa sortie?
Tout le monde. Moi je l'ai eu.
Ellie, tu l'as eu?
Moi je l'ai pas eu tout de suite à sa sortie.
D'accord, je sais que notre modérateur FF l'a eu aussi. Donc ça fait du monde quand même.
Il y a du monde, celui-là était attendu, pas qu'un peu.
Ouais, non, il était attendu effectivement. C'est en fait le jeu a été présenté pour la première fois en 95 à un show Nintendo, je crois, Nintendo Show, un événement Nintendo. Mais le jeu était en développement en fait pendant 4 ans quand même, quoi. Donc il y a eu 4 années de développement avec environ 120 personnes qui étaient sur le jeu. Et développé donc par une équipe supervisée entre guillemets par Miyamoto Shigeru, et c'est le premier jeu de la série des Zelda à être passé à la 3D. Donc effectivement, après avoir été présenté une première fois, après avoir vu les premières images, tous les joueurs attendaient ce nouveau Zelda, et faut dire qu'on a quand même encore attendu 3 ans avant de pouvoir y goûter et avant de vraiment pouvoir le...
Mais c'est un peu récurrent quand même avec les Zelda. Ils aiment bien envoyer des images, des petites vidéos, et puis après vous faire patienter les fans de Zelda.
C'est un peu là le cas en ce moment avec le Skyward Sword qu'on attend sur la Wii, où on a eu une présentation il y a quelques temps maintenant, et où on nous laisse un peu sur notre faim, c'est-à-dire qu'il y a Nintendo communique très peu sur les jeux en développement, c'est vraiment très difficile parce que du coup vous savez pas du tout où on est. Alors il y a un moment ils vous disent que le jeu on est à peu près à ce stade-là, mais après il y a aussi des choses qui font qu'ils le sortent à certains moments donnés pour des raisons commerciales, même si le jeu est fini avant.
Évidemment.
Et d'autres fois où ils repoussent la sortie du jeu pour pas s'auto-concurrencer, ou tout simplement pour peaufiner le jeu parce que ils sont assez tatillon, on va dire, avec la franchise des Zelda, qui est quand même une grosse franchise Nintendo, quoi.
Et encore, ça, c'est quand on nous balance des images que finalement, parce que il y avait eu aussi la polémique où ils avaient balancé des images et finalement ils
le
avaient complètement changé le graphisme.
Ça, c'était
du
Wind
jeu.
Wind Waker, où en fait les fans attendaient un jeu réaliste après avoir vu des images qui était en fait une démo de la Nintendo GameCube, donc où on voyait un combat entre Link et Ganondorf en style réaliste. Et finalement, il aura fallu après attendre Twilight Princess pour avoir quelque chose qui s'approchait de ça, quoi. Mais c'était juste une démo technique à la base, mais du coup les fans se disaient ah super, ça sera le prochain Zelda, et c'est les images de ce qu'on aura probablement pour le prochain Zelda. Et en fait ils ont carrément parti dans une autre direction, une direction cartoonesque. Donc voilà, et une fois le jeu sorti, il faut dire que c'était déjà un grand jeu à proprement parler, puisque c'est la première fois que Nintendo a utilisé une cartouche 256 mégabits ou 32 MO pour parler dans notre unité de mesure, ce qui paraît pas beaucoup, c'est sûr, quand on regarde
parce
aujourd'hui.
Parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent, alors.
Oui, donc 32 mégaoctets, c'est pas grand chose, mais par rapport au ROM de la Nintendo 64, c'est une des grosses ROM de la Nintendo 64, quoi. Donc c'est un gros jeu, on va dire. Ils avaient besoin d'une cartouche qui faisait le double en fait des cartouches qu'ils avaient besoin d'habitude, quoi. Donc dès les premières secondes du jeu, vous êtes plongé donc dans l'univers de Zelda, dans le monde d'Hyrule. Principalement, donc vous commencez dans la forêt Kokiri, et donc vous êtes dans la peau de Link. Et vous êtes au milieu du peuple des Kokiri, qui sont une espèce de peuple d'elfes, d'elfes enfants en fait, c'est-à-dire un peuple d'enfants qui ne vieillit jamais. Donc la fée, vous êtes réveillé un matin par un cauchemar déjà, où vous voyez en fait un événement se produire, vous savez pas trop ce qui se passe, et la fée Navi vient vous chercher et vous dire que l'arbre Mojo vous demande. Donc l'arbre Mojo qui est en fait le sage en fait de la forêt. Et alors avant de pouvoir le rejoindre, il faudra vous équiper donc d'une épée de bois comme dans tous les Zelda, vous pouvez donc vous rendre auprès de l'arbre qui vous explique qu'un homme malfaisant cherche à conquérir la terre d'Hyrule en prenant contrôle de la Triforce, et il vous explique que vous êtes celui qui pourra l'en empêcher. Donc pour cela, vous devez vous rendre au château d'Hyrule pour rencontrer la princesse Zelda, qui doit vous en expliquer plus en fait sur ce qui se passe dans Hyrule. Et c'est ainsi que débute l'aventure de Link dans le monde d'Hyrule.
Comme l'a dit Martha, si vous ne savez pas ce qu'est la Triforce et la princesse Zelda, se référez à nos podcasts.
Entre autres. Donc on retrouve donc l'univers propre aux épisodes antérieurs 2D, c'est-à-dire que le jeu se déroule dans un univers assez libre où seuls certains obstacles vous empêcheront de progresser. Donc je vous y expliquerai après comment ça évolue au niveau des donjons et comment vous pouvez surmonter au fur et à mesure ces obstacles en avançant dans l'aventure. Donc Link évolue en fait dans un univers complètement en 3D avec une vue à la troisième personne. Donc le jeu est en 3D en temps réel, quoi, et pareil, les cinématiques sont aussi en 3D en temps réel et non pas en image de synthèse ou autre 3D précalculé. C'est vraiment du moteur physique du jeu qui gère les cinématiques. Donc il n'y a pas de rupture en fait.
C'est là où ça immerse beaucoup plus le joueur, parce qu'il a l'impression de voir ce qu'il pourrait faire alors qu'il le fait pas.
C'est ça. Il n'y a pas de coupure entre les cinématiques et les phases in-game. Donc, Je disais qu'on était en vue à la troisième personne. Par contre, il est toutefois possible de passer en vue à la première personne pour observer le monde autour de vous, ou tout simplement pour viser avec certains objets dont on parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, les déplacements se font grâce au stick analogique de la Nintendo 64. Et contrairement aux anciens opus en 2D, Link peut sauter, entre guillemets, sans utiliser d'objet. Par contre, uniquement sur le même plan, c'est-à-dire qu'il peut franchir un obstacle de vide, mais il peut pas sauter en l'air. Alors s'il va, je crois qu'il peut, quand même s'accrocher.
Tu vas me faire démentir, mais il y a des glitches où tu peux faire des moon jump et tout, donc.
On
parlera des glitches dans ta partie, Martin. On va parler de ce qui est réellement possible dans le jeu. Globalement, donc le personnage peut sauter. Alors par contre, il faut savoir que les sauts se font automatiquement lorsqu'on atteint le bord d'une plateforme. Et que le joueur contrôle en fait uniquement l'orientation du saut.
T'as donc, les sauts manuels avec la visée plus le côté, ou alors les sauts en arrière, les flips arrière, hein, t'as aussi des sauts.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait le personnage va sauter dans la direction
indiquée par le stick.
Voilà, et après une fois que le personnage est en l'air, on peut plus orienter le saut, quoi.
Oui, on peut pas le déclencher, quoi. En plus de plateforme en plateforme.
On peut le freiner en l'air, ouais, mais on peut pas déclencher le saut. C'est quand on arrive au bord d'un trou,
du quoi,
qui saute. Donc, comme je disais, vous vous retrouvez rapidement en possession d'une épée et d'un bouclier qui constituent en fait la base du gameplay. Donc voilà, la base du gameplay des combats, ça va être épée plus bouclier et vous tapez sur les adversaires. Après, vous pouvez aussi avec votre épée, comme dans beaucoup de Zelda, ou la plupart même, couper l'herbe et récupérer divers rubis et cœurs perdus, et éventuellement aussi j'en parlerai après, mais des rubis et des choses de des potions pour récupérer de la magie, puisque on expliquera après, il y a un peu de magie aussi dans cet opus. Donc voilà. Moi je vais peut-être
Tu préfères attendre la partie suivante pour continuer amplement de nous parler de ce magnifique jeu. Et bien puisque l'action se passe beaucoup très souvent autour de Hyrule, on va s'écouter la musique du château d'Hyrule.
M57 Radio.
M57 Radio. Nous voilà de retour donc dans le dernier numéro de la saison de Try Again, consacré à The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est le dernier numéro qu'on va vous laisser comme ça. On est là pendant toutes les vacances sur nos multiples Facebook, le Facebook de la page Try Again, ainsi que sur notre forum www.forumtryagain.com, sur lequel nous laisserons quelques petites surprises dont nous vous parlerons en fin d'émission. Voilà Lionel, versus mode run 2.
Voilà, donc je disais que j'en étais en train de parler de mon jardinage, moi. Je vais revenir donc à l'histoire. Donc vous évoluez donc dans le monde, vous parcourez les terres d'Hyrule. Et comme disait Ellie tout à l'heure, le principe des Zelda, c'est qu'il y a la phase où on se promène en fait dans le monde d'Hyrule avec ses différentes régions et où on alterne avec les palais ou les donjons comme on veut, en respectant généralement un ordre imposé par le jeu, en sachant que il y a des possibilités pour faire les certains palais dans un autre ordre. On peut passer outre, mais Martin, je pense qu'on s'en parlera peut-être dans sa partie.
Non, j'en parlerai pas, mais il y a des moments dans le jeu où celui-là, ils ont laissé plus de possibilités. T'as pas forcément un palais qui t'est imposé, tu peux en prendre deux souvent.
C'est ça, donc c'est plus libre à ce niveau-là.
Ouais, c'est sympa, ouais.
Bon, et souvent, le principe dans les Zelda, c'est que quand on a récupéré l'objet du donjon, donc là j'en viens un peu aux objets, dans chaque donjon, généralement, on peut récupérer un objet. Donc un objet qui se retrouve après dans votre inventaire, que vous pouvez après assigner à un bouton et qui va vous permettre de réaliser certaines actions. Donc comme objet notable, on va retrouver des choses comme
le marteau, grappin,
arc, le boomerang, l'arc,
les bombes,
très
mais
important.
Les bombes, c'est pas un donjon.
Les bombes, c'est pas fort. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'est pas. Il y a certains objets qui se récupèrent dans les donjons, d'autres qui se récupèrent par des quêtes ou tout simplement chez un marchand.
Ouais.
Voilà. Donc après, par contre, on peut aussi. Il y a des upgrades de ces armes ou de ces équipements qui permettent, par exemple, d'apporter plus de bombes ou des choses comme ça. On peut après récupérer aussi des upgrades, soit par des mini-jeux, soit pareil en finissant une quête ou. Voilà, il y a différentes choses qu'on peut faire pour avoir plus d'objets par la suite. Donc, ou pour pouvoir porter plus de fois le même objet. Donc, je disais chaque donjon va vous donner généralement un objet qui va vous permettre de réaliser une action qui va en fait vous permettre d'avancer dans le jeu et de passer certains passages qu'on pouvait pas passer auparavant. Par exemple, le grappin va vous permettre d'accéder à des zones qui étaient inaccessibles auparavant et donc vous donner accès à une nouvelle zone du jeu, quoi.
Ça aussi, c'est très systématique des Zelda, hein.
Ouais,
de gagner l'objet qui va nous servir soit à tuer le boss,
c'est
soit
ça.
À avancer.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en général, l'objet qu'on récupère dans le donjon, en plus, est souvent, pas forcément systématiquement, mais souvent quand même le point faible du boss, du niveau, quoi.
Ça, j'avais pas remarqué.
Ah, zut!
Quel dommage!
Ah, bah, c'est bien, tu vois, toi aussi, t'apprends des choses dans l'émission, Ellie. Donc, je disais que Hyrule se découpait avait différentes régions. Donc, il y a donc 6 zones distinctes, à peu près. On a la forêt Kokiri, l'endroit où on débute. La plaine d'Hyrule, qui est la zone centrale, qui donne accès, en fait, à toutes les autres zones, en fait, toutes les autres régions, y compris le château d'Hyrule, qui fait partie d'Hyrule en lui-même, quoi. Et il y a le village Cocorico, qui est aussi récurrent dans le monde de Zelda. Le mont du Péril, habité par les Gorons. Le domaine de Zelda. Le domaine de Zora, pardon.
Les Zora.
Lapsus, ouais.
Elle ne peut pas ne pas penser à elle.
Donc, peuplée, comme son nom l'indique, par les Zora. Et la vallée Gerudo, avec sa forteresse, habitée par un peuple de voleuses.
C'est ma zone.
Dont on écoutera
la musique tout à l'heure, effectivement. Et qu'on écoutera même dans le bed. Si vous tendez un peu l'oreille, vous entendrez la version orchestrale que j'ai mis aussi dans le bed un peu plus tard, je crois.
T'as dit quoi? C'est un village de loveuses?
Lamentable. Donc les donjons respectent la trame habituelle propre à la série des Zelda. Donc vous entrez dans le donjon, Vous devez parcourir à la recherche de ces différents secrets, des clés pour ouvrir les portes, comme je disais, de l'objet qui va vous permettre soit d'accéder à la zone du boss, soit de poutrer le boss, tout simplement. Et en même temps, déjà, il va falloir aussi trouver la clé du boss, de l'entrée du boss, pour pouvoir ouvrir, en fait, tout simplement la porte où se trouve le boss. Il vous faudra donc... à la fin une fois que vous avez tué le boss, que vous avez passé le boss, vous récupérez le cœur complet dont Eli parlait, qui est pareil aussi récurrent depuis l'épisode
1 sur NES, je crois.
Depuis l'épisode du 1 du premier épisode. Par contre, comme disait Eli, à partir de Zelda 3, ou même de Zelda Game Boy, il y a l'inclusion des cartes de cœur ou des fragments de cœur. Mm-hmm. C'est pas toujours des cartes, des fois c'est des cartes
de cœur. C'était Zelda 3, sur Super NES.
C'était Zelda 3.
Parce que la version Game Boy arrivait juste après.
Ouais, c'est ça. Donc, du coup, vous avez. Vous avez, quand vous finissez un boss, un cœur complet. Et en même temps, vous récupérez généralement, la relique qui permet après d'ouvrir une porte, ou enfin d'ouvrir la porte, ou d'avancer dans l'histoire, ou de faire quelque chose dans l'histoire, quoi. Donc. Dès le début du jeu, donc Link reçoit également un Ocarina. Qui n'est pas l'Ocarina du temps, puisque c'est le premier qui récupère, c'est l'Ocarina des fées.
Offert par Saria.
Offert par Saria quand il quitte le village, quand il est sur le pont pour quitter le village, Kokiri, et donc qui sera rapidement remplacé par l'Ocarina du temps par la suite. Cette Ocarina, en fait, comme le nom du jeu l'indique, est un élément clé du gameplay, puisque vous allez pouvoir jouer des petites mélodies que vous allez apprendre au fur et à mesure du jeu. Et ces mélodies vont avoir un impact sur ce qui va se passer à l'écran. Par exemple, tout à l'heure, on écoutait la musique du moulin à vent, là où je disais que c'est là qu'on apprenait le chant des tempêtes. Bah, par exemple, le chant des tempêtes, quand vous le jouez, il va déclencher un petit orage. Et généralement, ça ouvre un passage secret. C'est souvent là où ça ouvre un passage secret, où ça fait pousser une plante. Ça peut faire différentes choses.
Astuce. Chant des tempêtes sur un...
Sur un haricot planté, quand on est enfant, ça fait des trois fées.
Grandir un tout petit haricot et trois fées, comme il le dit très bien Lionel.
Et donc les trois fées?
Ça peut faire de la vie en plus.
On peut les récupérer dans un bocal.
Ou les prendre pour soi.
Les prendre pour soi directement, ça fait de la vie en plus. Si on les met dans un bocal, quand on meurt, on récupère des cœurs. Pas tous, je crois.
À 8, mais ça mange pas de crédit. En fait, tu dis que tu vas avoir un game over, tu crames une fée.
C'est ça.
Ouais, grand classique de la série, encore une fois.
Exactement.
Alors il faut savoir par contre que quand on sauvegarde contrairement par exemple au premier opus Zelda sur NES, quand vous sauvegardez, ça vous ne compte pas une mort.
Non, c'est sur Super NES qui se compte
sur Super NES.
Sur Super NES, il comptait sur la version Super NES, mais pas dans la version dans les rééditions qu'il y a eu après du jeu.
Sur NES aussi, comptait une mort à chaque fois que tu sauvegardes. C'est parce qu'en fait, t'es obligé de faire sauvegarder et quitter, ça te compte comme une mort, quoi.
Ah ok.
Ouais, c'est violent parce que du coup, tu peux pas rester avec un compteur à zéro si tu veux, sauf si tu finis le jeu d'une traite. Mm-hmm. Bon, ce qui est faisable sur Zelda 1. Ce qui est déjà un peu plus difficile quand on connaît pas le jeu par cœur, ça prend un peu plus de temps. Quand on est un bourrin comme toi qui on l'a fait 15 fois, effectivement. Voilà. Donc, on pourra également retrouver par exemple d'autres chants, du style le chant du soleil qui fait. Parce qu'il faut savoir que le jeu, quand on est sur la plaine d'Hyrule, il y a une alternance jour-nuit. Mmh. Qui va influer, c'est-à-dire qu'en si on rentre dans une ville alors qu'on est en nuit, il y aura pas la même chose dans la ville que si on rentre en plein jour.
C'est comme dans Shenmue.
Ouais, c'est du tri, c'est ce que j'allais dire.
Sauf que si ma mémoire est bonne, on peut changer le jour-nuit quand on est dans la ville avec le chant du temps, mais le temps
n'avance
pas.
Le chant du soleil. Pas chant du temps.
Le chant du soleil.
Ça, tu fais augmenter de 12 heures exactement.
Mais par contre, quand on est dans la ville, le temps n'avance pas.
Non.
Donc le temps est bloqué, si on est dans le jour, on reste en jour. Par contre, si on fait le chant du soleil, là on passe en mode nuit. Donc, autre particularité de l'Ocarina, c'est que vous obtenez certains chants à certains moments qui vous permettent de vous téléporter aussi.
Très pratique,
c'est-à-dire que vous avez des zones définies. Quand vous jouez un certain chant, ça vous emmène dans une certaine zone.
Et c'est pas une nouveauté en fait, ça. Il y avait déjà la même chose dans Zelda 1 sur NES avec les flûtes.
Dans Zelda 1,
il me semble que tu avais parié avec des flûtes.
Zelda
3, tu avais déjà un ocarina qui permettait aussi 8 points de téléport.
Je suis plus sûr, je me rappelle.
T'avais
des téléporteurs dans Zelda 1, mais je me rappelle pas d'histoire des flûtes. Mais c'est pas impossible parce que j'ai joué il y a quelques temps, mais je me souviens plus en détail.
De mémoire, je dis ça.
Oui, c'est possible.
La mémoire a des fois des défauts.
Tout à fait. Donc, et puis également, autre chose ultra importante que va permettre de faire l'ocarina, c'est une fois que vous aurez récupéré votre cheval, puisque dans Zelda, on peut récupérer Epona, qui va être notre monture pendant toute l'histoire.
Oui.
Et vous pouvez appeler Epona pour qu'elle vienne vous rejoindre à quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans la plaine d'Hyrule, ou dans les zones d'Hyrule ou qui sont accessibles par votre cheval. Et là, vous pouvez monter à cheval. Et alors, bon, vous pouvez monter à cheval, ça vous permet d'aller plus vite.
On est invincible à cheval, on prend pas de dommages.
On prend pas de dommages.
Il s'épuise le cheval, non? Il y a des carottes.
Et quand on donne un coup de cravache, ça utilise une carotte et on les récupère au bout d'une ou deux secondes. Enfin, à chaque fois tant qu'on ne cravache pas.
Si tu les vides toutes, après ça met un peu plus longtemps.
Mais tu les récupères toutes.
Ouais, c'est la gestion de la course d'endurance.
Voilà. Donc effectivement, on peut récupérer un cheval. D'ailleurs, moi je sais que je l'avais pas fait tout de suite au départ. Et puis ça aide bien quand même quand on peut se déplacer un peu plus rapidement.
Tout à fait.
Donc à un certain moment du jeu, vous serez aussi amené à vous rendre au temple du temps où réside en fait l'épée légendaire, la Master Sword, qui, une fois en votre possession, vous propulse 7 ans plus tard dans votre corps d'adulte.
Avec un gros spoiler en plus. Ouais.
Mais bon, en attendant, je peux pas parler de Ocarina of Time sans parler.
On est obligé, mais c'est un peu l'enjeu.
Effectivement, c'est un bon. Je veux pas vous spoiler plus que
mais
ça.
Mais comment on a des gros geeks qui nous écoutent, voilà. Ils y ont tous déjà joué.
Ils s'en foutent.
Voilà.
Ouais, voilà. Mais bon, grosso modo, vous vous retrouvez dans le futur. Et vous passez de Link enfant, puisque je vous disais que vous commenciez dans le corps de Link enfant, dans un village d'enfants, et vous vous retrouvez dans votre corps d'adulte, donc 7 ans plus tard. Donc avec un Link qui doit avoir environ 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Enfin, donc quand je dis adulte, ouais, c'est ça, il doit avoir à peu près 10 ans dans les débuts d'aventure, un truc comme ça, et il doit se retrouver à 17 ans.
Je crois que c'est 9, 16, mais il y a un débat là-dessus, il me semble. C'est pas marqué nulle part.
Donc, vous vous retrouvez avec un Link plus adulte, plus grand, qui peut manier d'autres objets également. Par exemple, on notera l'arc qui est utilisable dans cette version seulement en adulte. Mmh. L'enfant Link
a le lance-pierre
à la place. Donc, en fonction que vous soyez d'une version à l'autre, vous aurez pas le même inventaire tout à fait. Vous aurez d'autres choses des objets qui seraient pas accessibles dans votre inventaire, donc que vous pourrez pas sélectionner. Donc là, vous vous retrouvez donc dans le corps adulte et vous vous retrouvez dans un monde d'Hyrule où Ganondorf, donc votre ennemi, règne en maître et donc vous vous retrouvez un monde de désolation, je dirais, quoi. Pour moi, vous vous sortez, vous avez des ghouls qui traînent dehors. Enfin, c'est un univers complètement changé par rapport à l'univers très gai, très joyeux de l'univers de Link enfant, en fait. Et donc, vous pouvez à tout moment revenir dans le temple du temps. Et enfin, à partir d'une certaine phase, je crois, il faut d'abord avancer un tout petit peu dans la réussir d'abord, je crois, un premier palais.
Revenir au temple du temps avec certains objets, et voilà. Après seulement t'as le droit de redevenir.
Et après, on peut reposer l'épée Master Quest. Alors donc, du coup, c'est frustrant parce que dans un certain sens, vous pouvez pas utiliser la Master Quest en étant enfant, puisqu'à chaque fois que vous
la Master Sword
en tant qu'enfant, parce que vous allez vous retrouver. Automatiquement, dès que vous la reposez, vous redevenez enfant, mais dès que vous la reprenez, vous redevenez adulte. Donc,
elle est trop lourde pour un enfant.
Voilà, elle est pas maniable. Donc, certaines actions aussi, donc on me disait les impacts des actions dans le passé et dans le présent, il y a certaines actions, pas grand chose, hein, il n'y a pas une énorme interaction entre passé et présent. La plus notable, c'est celle effectivement de planter
les haricots
qui vont donner des plantes dans le futur. Qui font une espèce de plateforme qui va après voler et atteindre certains endroits inaccessibles.
Exactement.
Donc, ouais. Mais grosso modo, accéder à ces plateformes va généralement vous donner un quart de cœur. La plupart du temps, c'est ce qu'il y a au bout du compte. Un quart de cœur ou un trésor, mais.
Des rubis, des
rubis.
Ils ont repris l'idée de Zelda Oracle of Ages. Ouais. Là, c'était pareil, tu plantais.
Il est sorti après, Oracle of Ages.
Ah bah, c'est vrai.
Ouais. Il est repris, sorti après. Hein.
Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, comme je disais, on a. Donc, ça vous donne un quart de cœur souvent de faire ce genre de petite action. Bon, il y a plein d'autres choses par lesquelles on peut récupérer des quarts de cœur, des petites mini-quêtes, plein de petites. Enfin, grosso modo, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour récupérer. Donc, il y en a au total 36, si je me trompe pas. Parce qu'on a. On part avec 3 cœurs.
Ouais.
Il y a 8 palais.
Trois enfants,
cinq adultes, non?
Ouais.
Donc ça fait 8 cœurs. Donc on est à 11 et ça fait 9 fois 4. Si mes calculs sont bons, ça doit faire un truc comme 36, non?
Je suis mauvais en maths aujourd'hui.
Bon, d'accord, voilà. La multiplication est juste. Mais maintenant, après.
Donc, normalement, d'après ce que j'ai compté, ça fait 36 fragments de cœur pour obtenir donc un maximum de 20 cœurs.
Ok.
Donc voilà. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait récupérer de la magie. Alors tout simplement parce que dans le jeu vous allez rencontrer des fées, des grandes fées, des fontaines avec des grandes fées qui vont vous donner certains pouvoirs. Donc le premier, je crois que vous récupérez, c'est le pouvoir de l'épée tournoyante. Bah ça dépend encore si vous la trouvez, hein, parce que c'est des, je crois qu'elles sont un peu cachées dans des grottes.
La première, elle est en haut du mont du péril, hein, et elle t'offre juste la magie avec effectivement tourner l'épée.
Tourner l'épée tournoyante.
Et après, elle te dit vous cherchez la deuxième qui est à Hyrule. Hein.
C'est ça. Et donc vous aurez la possibilité, vous aurez certaines, elles vont aussi vous donner certains items c'est des espèces de pierres ou quelque chose comme ça qui vont vous donner un pouvoir particulier. Donc il y a trois pouvoirs particuliers. Je crois le feu de Dean,
ouais.
L'amour de Neru qui est une protection,
et le bouclier de Faror.
Et le bouclier de Faror. Alors je sais plus, c'est le bouclier de Faror qui offre une protection en échange de la magie qui se consomme.
Ouais.
Et l'amour de Neru,
c'est un point de téléporte dans un palais.
D'accord, ouais, c'est
dans
ça.
Le palais, sinon tu c'est retournes ça. À l'entrée, et là c'est créer un point de téléporte auquel tu peux revenir après facilement.
C'est ça. Donc voilà, bon, plus ou moins utile selon comment vous jouez. Bon, moi je sais que je m'en servais pas forcément, à part le feu de Dean qui est utile pour allumer certaines torches.
Voilà.
Mais bon, c'est sympa d'avoir aussi hein, quelques petits pouvoirs magiques.
Et puis la magie sert aussi pour les flèches de feu, de glace,
voilà,
de lumière.
Voilà, tout à fait. Les fameuses flèches qu'on va aussi récupérer par certaines quêtes ou par certaines actions dans le jeu. Bon, je vais pas vous faire la soluce non plus, on n'est pas là pour ça, quoi.
Puis on n'aurait pas le temps, surtout.
Et. Une autre des quêtes fil rouge, je dirais, de l'aventure, c'est la quête d'Escultula.
Ouais.
Martin, ça c'est ta quête préférée, je pense.
C'est une des préférées, ouais, que j'ai adoré faire.
Est-ce que c'est une petite quête?
Non, c'est une grosse quête.
Donc, ce sont des sortes d'araignées en fait réparties de par le monde, et à chaque fois que vous en éliminez une, elle libère en fait un token, un espèce de petit objet quoi, qui représente, qui est en fait une Escultula d'or. Et ces Escultula d'or, vous allez les collectionner. Il y en a normalement prévu dans le jeu une centaine. C'est 100 Escultula d'or. En sachant que Martin nous expliquera tout à l'heure, je pense.
Comme pour les cœurs, on peut en gagner plus.
On peut en gagner plus. Bon, c'est des petits glitches du jeu, hein, des petits bugs qui sont présents dans le jeu. Donc. En collectionner 100 vont vous permettre d'obtenir certaines choses. Donc déjà
rubis,
hein,
un rubis sans Escultula, un rubis
sans Escultula, c'est nul. Oui, c'est,
mais vas-y, continue.
C'est tout nul, mais disons que bon, sans Escultula c'est pour le challenge. Par contre, jusqu'à 50 ça a vraiment une utilité parce que ça va vous permettre de récupérer généralement un fragment de cœur. Enfin, ça va vous permettre de récupérer un fragment de cœur. Et par contre aussi avant il y a des paliers à 10, 20, 30 et 40. Ouais. Et où là vous allez pouvoir avoir plus une bourse plus grande. Donc ça va vous permettre d'augmenter le nombre de rubis que vous pouvez porter. Donc c'est assez capital pour certaines choses après à acheter dans le jeu, quoi. Voilà.
Eh bien, très bien. Nous continuons notre petit voyage à travers ces différents mondes. Après le château d'Hyrule, nous visitons la vallée Girodo.
M57 Radio. M57 Radio.
Et nous voilà déjà de retour pour notre dernier Hello de la saison. Et c'est Martin qui va s'en charger. Il a plein de petits secrets à nous raconter sur ce jeu.
Énormément. Alors je vais commencer, comme je l'ai dit en début d'émission, avec des anecdotes personnelles. Donc moi j'ai eu le jeu à la sortie, comme j'ai déjà dit. J'ai fait tout de suite une partie pour finir le jeu. J'ai cherché tout à 100%. Voilà, quelques semaines de jeu, c'était torché. Et puis j'ai tellement aimé le jeu que je l'ai refait. Et puis quand je l'ai refait, et ben d'un coup j'avais 101 Skull Toulador. Et là je me suis dit, il y a un problème. Comment faire? Et donc je suis allé voir sur le net. Et sur le net, j'ai vu des gros
trucs. Des âneries, mais des trucs des plus grosses.
Des âneries, mais vraiment absolument énorme ici.
Ouais,
mettez toutes les poules ensemble, faites le feu dessus, ça marchera.
En gros, c'était le truc pour se faire killer en fait, parce que t'as les poules qui te tapent dessus.
L'attaque des poules.
Mais c'est trop drôle.
Pas du tout. En fait, j'ai cherché après longtemps comment est-ce que j'avais fait ceci, et c'est tout bête. Il y a en tout et pour tout dans le jeu une seule Skull Toulador qu'on peut prendre à l'infini. Je dis bien à l'infini, assez rapidement dans le jeu. Ça se trouve dans le château d'Hyrule quand on est enfant. Dès lors qu'on a récupéré le boomerang, parce qu'en fait le boomerang, on peut locker un objet, et si on lock en fait la Skull Toulador pour envoyer le boomerang dessus pour la récupérer, tu loques l'objet, tu envoies le boomerang pour que le boomerang va te ramener l'objet. Et pendant que le boomerang te ramène l'objet, tu pars en arrière et d'un coup, hop,
tu fais un salto arrière. En fait.
Ouais, ou même juste en marchant, ça marche aussi. Hein.
Ah ouais,
tu te téléportes, tu sors de la zone et à ce moment-là, le boomerang vient sur toi alors que tu es en train de téléporter. Tu vas récupérer la Skull Toula, mais elle est encore là. Et là, tu peux la reprendre à l'infini.
Faut le timing, on va dire. Faut avoir le bon timing. Ça se réussit pas forcément le premier coup.
Du coup, oui, c'est possible d'avoir bien plus de Skull Toula.
Le maximum, c'est 999. T'avais essayé ça.
Après, tu passes en fait avec des valeurs bizarres.
Ouais, les valeurs exactes.
Des virgules, des points virgules.
D'accord.
Mais t'es pas limité, donc oui, tu en auras beaucoup plus. Mais
question, toi qui as dû t'amuser à le faire, du coup, si t'arrives à récupérer au moins 50 Skull Toula, dès le début,
tu perds la pierre de souffrance dès le début, le quart de cœur, c'est dès le début. De même, tu peux aussi, alors ça, j'ai découvert il y a pas longtemps, dupliquer les quarts de cœur pour arriver à un total de 30 cœurs et demi. Et donc, pour dupliquer les quarts de cœur, on peut le faire à deux endroits dans le jeu, soit la vallée Gerudo au stand de tir, soit avec un gars qui était dans la forêt perdue, dans les bois hantés. Et donc, pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo qui le prouve. Donc, je peux vous mettre le lien de la vidéo YouTube qui montre le gars faire ça. S'il y a des gens qui veulent ça, je peux le mettre. Je vais pas la décrire parce que je pourrais pas le faire. Et après, je vais surtout parler d'un truc qui a fait baver beaucoup de gens. Il s'agit du marathonien.
Ouais.
Le marathonien que l'on rencontre quand on est adulte. Et donc, le marathonien nous dit, ouais, vas-y, fais une course contre moi. Je suis sûr que tu pourras pas me battre. Et le marathonien a la réputation d'être invincible. Alors, comment dire ça? Le marathonien, si vous cherchez bien sur internet, vous verrez qu'il y a un mec qui, sans action replay, sans triche abusée, juste avec des glitches normales dans le jeu, il arrive à faire 27 secondes. Il ne bat pas le marathonien. Et puis, si tu regardes un peu plus loin, tu vas voir une autre vidéo YouTube où le mec, il va te faire « Ouais, moi j'ai battu le marathonien », puis d'un coup, tu vois un texte qui s'écrit « Ouais, bravo, t'as réussi à me battre, t'as fait une seconde ». Et le mec, dans sa description de la vidéo, il marque « Alors en fait, pour battre le marathonien, ce qu'il faut faire, c'est que tu lances la quête, tu redeviens enfant, et ensuite, quand t'es enfant, tu te mets sur le pont où il va arriver, et t'attends 7 ans dans le jeu, à savoir 2556 jours, soit environ une semaine la console allumée, ou alors tu fais le champ du soleil le reste du temps, et puis d'un coup, Link va devenir adulte, le marathonien sera là, t'auras gagné, il va dire « Ah, je m'ai battu en une seconde ». Ce qui est absolument fou. C'est un gros hoax des familles.
Ouais.
C'est quelque chose d'absolument faux. Ça a été démenti.
J'imagine bien le gars qui s'est amusé à essayer de le refaire, à faire 2500 jours.
Rigolez pas, je suis sûr que vous êtes capable de le faire.
Non, mais déjà la console, donc, au bout d'une semaine, elle chauffe.
J'ai une autre vidéo qui est une autre vidéo YouTube qui prouve en fait que le mec il a juste changé avec un éditeur ce que le gars racontait inversement. Donc c'est juste un gros spoiler. Et moi j'irais même encore plus loin que ça. Je dirais que les gens qui veulent tricher, genre avec Action Replay, vous pouvez mettre une seconde. Et le marathonien il dans un quand
même avec zéro, non, vous avez pas essayé avec zéro.
C'est avec une seconde ou zéro seconde, le marathonien gagne toujours. Il est strictement impossible de le battre. C'est une légende, on ne peut pas le battre. Donc, sans tricher, au mieux que j'ai vu, c'était 27 secondes, je crois, ou 37 secondes.
T'as dit 27, il y a 2 secondes.
Mais... Ouais, bah c'est tout ça alors. 27 secondes affirmatives, je peux mettre le lien. Donc, ça, c'est en utilisant des glitches. Alors, avec les glitches, on peut faire des slides, des backslides, des trucs de fou pour aller beaucoup plus vite. Donc, par rapport à ça, il y a des gens qui ont fait des speedruns sur le jeu pour terminer le jeu le plus vite possible. Donc, le record actuel est de 56 minutes, 54 secondes et 2 centièmes.
Vidéo impressionnante aussi.
Voilà, sachant que c'est sur un émulateur avec des gros coups de triche, mais tout normal, sans dire, c'est juste de l'abus de ce qu'il y a dans le jeu.
Alors, la question, c'est savoir avec quel ROM il joue, parce qu'il y a quand même.
La ROM US version 1.0 et
celle qui a plus de glitch que les autres.
Et il y a une autre vidéo qu'on peut voir où là, toutes les quêtes ont été réalisées et il termine le jeu en 2h51, 19 secondes. Toujours sur le même site, donc s'il y a des gens que ça intéresse, je peux mettre les liens, pareil, YouTube et compagnie pour trouver ça. Donc ça fait déjà un bon petit paquet.
Ouais, parce que effectivement, comme je disais, il y a plusieurs versions du jeu qui existent, plusieurs versions des ROM qui ont été un peu modifiées par la suite. Donc effectivement, il y a des glitches qui ont été ou des bugs qui ont été corrigés dans les entre la version 1.0 et 1.1 déjà.
Sachant qu'après des glitches, on a un paquet. Je pourrais pas tous en parler. Il y en a une quantité incroyable. On peut rendre l'hydre invisible. On peut mourir dans un trou. On peut être Link adulte avec l'épée d'enfant. On peut dupliquer les cartes de cœur. On peut avoir des gants de nouvelle couleur qui en fait vont déjà faire le pouvoir des gants d'or sans avoir les gants d'or.
Ouais.
On peut faire plein
et
de
l'histoire,
choses.
Est-ce que tu vas nous parler de la ruine quand même?
Oui, ah oui, alors juste, j'allais y arriver. Ça, par contre, c'est avec un code action replay. On peut faire apparaître dans le village Cocorico quand on est enfant un Airwing de Starwing. Ou bien Volcania, le boss du monde du péril. Et donc ça, c'est pour moi...
Ça, c'est pareil, t'es sûr que c'est pas...
C'est avec Action Replay, et suite à ça, alors les codes Action Replay sont là, il y a des vidéos qui le prouvent, suite à quand ça a été trouvé par les joueurs, il y a Miyamoto qui a fait une déclaration comme quoi, vivement, on n'aurait pas encore tout trouvé dans le jeu.
D'accord.
Ah, ouais, mais ça, j'ai entendu ça, et apparemment ça aurait été aussi une rumeur...
Donc, ça reste une rumeur. Reste une rumeur. Donc voilà, des glitchs, il y en a un paquet. Je pourrais pas tous en parler, si vous voulez des liens... Je peux vous en donner, je peux vous expliquer comment dupliquer les objets, comment se retrouver avec plus que 6 bouteilles, comment jouer de l'ocarina avec son épée, avec le marteau. Ouais, donc on peut faire des trucs assez impressionnants.
Ouais, c'est assez drôle.
C'est assez rigolo, on peut faire plein de choses. Et j'aimerais aussi parler, avec le peu de temps qui me reste, de la version Master Quest, qui était à la base prévue pour le 64DD qui est sorti au Japon.
Mais à la base, même le premier Zelda, enfin la première version était censée sortir sur 64DD. Finalement, ils n'ont pas souhaité le faire. Mais...
Et c'est pour ça qu'en fait, les joueurs japonais, pour eux, et ben cette version 64DD qui s'appelle Master Quest aurait dû être, selon pour certains joueurs, le vrai Ocarina of Time avec des palais beaucoup plus durs. Donc qu'est-ce qui change? Ben les palais, les salles sont les mêmes au niveau de leur forme, mais tout ce qui est à l'intérieur a été changé. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y aura une vache, une grille, une porte en plus, mais les coffres sont restés au même endroit.
Ouais,
mais c'est le reste qui ont été changés.
Les clés se récupèrent pas de la même façon, voilà. Les portes s'ouvrent pas pareil.
Les boss font plus de dégâts, pareil, il faut faire d'autres choses. Donc au début du jeu, par exemple, quand on va juste vers l'arbre mojo, il y a des plantes qui nous attaquent, là c'est des plantes version adulte. Ouais. Autre chose, le premier boss de l'arbre mojo, avant de pouvoir l'abattre, il faut lancer une noix par terre, avant on ne devait pas. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Donc je conseille aux gens de faire la version Master Quest. Par contre, les palais sont bien plus ardus, accrochez-vous, mais ils valent le détour. Je continuerai avec une question de notre auditeur le plus fidèle, Alex, qui demande si le scénario du jeu était inspiré de celui de Time Cop. Je n'aurai qu'une seule réponse pour toi, je dirais Obi-Wan Kenobi, et j'espère que tu auras compris. Maintenant, comme c'est la dernière de la saison, je vais m'auto-couper pour parler un petit peu de
la surprise.
Moi je voulais parler un peu, j'aurais voulu parler quand même aussi de juste préciser rapidement quand même que Martin, que tu dis pour qu'on pourrait rejouer au jeu, bah profitez-en parce qu'il sort très prochainement. Il est sorti d'ailleurs
3DS avec la version Master Quest, la version normale.
Voilà, il est sorti sur 3DS et vous pouvez y jouer justement à la version Master Quest si vous l'avez pas fait à l'époque.
Et par contre, la version 3DS est inversée droite gauche comme ils avaient fait pour Twilight Princess entre version GameCube et Wii. Pour autant, je voulais vous dire que Try Again, oui, ce soir c'est la dernière sur M57 sur les ondes. Pour autant,
on va pas
vous dire au revoir tout de suite. On vous a prévu des beaux cadeaux, donc les deux prochaines semaines, vous trouverez uniquement, et je dis bien uniquement, sur notre forum en téléchargement, deux émissions bonus, donc une par semaine. Donc on part pas directement en vacances. Vous aurez encore les podcasts qui arriveront. Alors par contre, durant l'été, je sais pas s'ils garderont le même rythme ou pas pour les donner, ou quand je serai là ou quand je serai pas là. Donc ça arrivera. J'aimerais surtout dire un grand merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis depuis le début de la saison, avec les gens qui étaient chez Culture Games, même s'ils ont craché, qu'il leur arrivait plein de choses. Ça, c'est peu importe, c'est la vie, quoi. À tous ceux qui nous ont suivis, qui ont eu des questions, qui ont été là, qui ont été sur le chat, merci à tous de m'avoir suivi, parce que pour moi c'était un grand bonheur, et je pense que mes collègues aussi ont envie de vous dire un petit merci ou un petit mot.
Bah oui, moi c'est les vacances, mais on est toujours là pour vous sur le forum www.forumtryagain.com. Il y a toutes les émissions à redécouvrir. Ce soir on vous met aussi Street Fighter 2 et ses suites, et puis donc les deux petites surprises qui sont vraiment exclusives pour vous qui nous écoutez et qui avez fait l'effort de venir faire vivre notre forum. Donc profitez-en, deux épisodes exclusifs rien que pour vous, parce qu'on vous aime. Et puis merci à ceux qui ont participé à notre IRL
aussi. Voilà. Et j'aimerais aussi dire que je m'excuse d'avance pour pas être présent sur le chat ce soir, parce que je risque fortement d'être présent demain à la Japan Expo.
Ah oui, allez à la Japan Expo. Oui,
vous pouvez nous croiser là-bas, vous pouvez nous croiser un peu partout ailleurs. Donc voilà, pour les gens qui aiment faire des trucs un peu gaming, ça existe en France. Moi, j'en fais de temps à autre. J'en fais pas toujours des pubs sur les forums. Mais voilà, si vous voulez nous croiser, on sera sûrement là-bas.
Voilà. On a été très, 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 très contents de faire cette saison avec vous, que ce soit sur le forum, sur le chat. On a pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi, les garçons.
En tout cas, merci à vous tous. C'était super de nous entendre, de nous supporter. C'est vraiment très
sympa. De supporter les blagues, les anecdotes perso.
Il y a des fans de blagues. L'anecdote perso, ça pullule, c'est un truc de fou, c'est devenu une mode.
Ouais, non, mais c'est vrai que l'anecdote perso, je crois, c'est ce qui restera de cette session.
C'est la marque de fabrique. Hein.
C'est ça, c'est la marque de fabrique de Tryogame.
Il y en a eu. Hein.
Et voilà, merci de nous avoir supportés, merci de nous avoir suivis pendant toute cette année.
Merci pour les questions.
Parce que
notre reload a quand même beaucoup vécu avec
c'est,
ça.
C'est beaucoup basé là-dessus. C'est là où vraiment je tiens à remercier toutes les personnes qui ont eu des questions depuis le début de la saison. Impossible de donner les noms à tout le monde parce qu'il y en a eu trop. Et il y en a eu. Mais c'est vrai. Toute la saison, ça fait quand même 40 épisodes la saison, même si ce soir, c'est que la 38e.
Beaucoup de travail, mais fait avec plaisir.
Voilà,
donc moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est les vacances bientôt pour beaucoup d'entre vous, donc sortez vos vieilles manettes, sortez vos vieilles consoles, faites-vous plaisir, ressortez toute la liste de nos jeux qu'on a traités qui vous ont donné envie, et faites-vous plaisir, jouez à Donf les manettes
au jeu rétro.
Voilà, bisous tout le monde,
ciao ciao.
Salut, ciao,
jouez bien.
M57 Radio.
Génération Prestart. Génération Prestart. Game over.